Je crois que dans les temps qui sont devant nous, ces temps qui ont vraiment changé, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on sent que dans le monde, il y a des choses qui tournent, dans la mentalité, dans la génération qui vient. On est un petit peu, en tout cas, je suis un petit peu des fois déroutée dans ce que j'entends. Et je crois qu'une chose importante, et c'est ce que j'avais envie de vivre ce matin, c'est que Dieu doit confirmer des choses dans nos cœurs par rapport à notre identité en lui. Et si on est au clair dans notre identité, si on est au clair dans ce à quoi il nous appelle, de la manière dont il nous appelle, et quelle est finalement la destinée que nous avons, bien ça va nous permettre de tenir ferme, surtout quand il y aura des vents et des tempêtes. Et je pense qu'on est dans une situation actuelle où on entend plein de choses et on a besoin d'être ancré. Et ce matin, je sentais que Dieu voulait nous ancrer dans qui on est en lui. Et pour ce, on va prendre un verset qui est assez connu, Jean 15-16, qui est un verset qu'on a sur nos cœurs depuis bien longtemps, qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demandez en mon nom. » Est-ce que c'est la même version? Non. Alors j'aime cette version-là. En fait, je ne lis jamais mon verset parce que je le connais par cœur. Puis maintenant, je le lis et je réalise que c'est une autre version. Nickel. Donc celui-là. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » On va commencer par cette première partie de ce verset. Tout au long de ce temps, on va passer à travers ce verset. Il nous a choisis. Et c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on a choisi Dieu. On a choisi de devenir chrétien, on a choisi de marcher avec lui, on a choisi. Mais en fait, la Bible nous dit que c'est lui qui nous a choisis. Ça n'a rien à voir avec nous. Ah, ça c'est déjà particulier. Le mot « choisi » ici nous parle d'une élection et une prédestination. La Bible dit dans Éphésiens 1:5, « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Il nous a prédestinés dans son amour. Un autre, Jérémie 1:5, qui dit « Avant de t'avoir formé, alors que tu n'existais même pas, dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être, alors là il parle à Jérémie, à être prophète pour les peuples. Prédestiné, élection, choisi. En fait, Dieu nous a choisis parce qu'il a décidé de nous accorder son amour et non en prévision de notre foi ou de quelconque mérite. Et ça, ça doit déjà dire oh, « Mais Seigneur, comme tu es bon !» Rien à voir avec ta foi, rien à voir avec aucune de tes qualités. Dieu, avant même, t'avait choisi, prédestiné. Tout est de son initiative. C'est une élection inconditionnelle, parce qu'elle n'est conditionnée par aucune qualité qui nous rendrait dignes de son choix. Dieu t'a choisi de manière inconditionnelle. Pierre parle dans 1 Pierre, il dit que même on est une race élue. Waouh ! On oublie des fois ça. C'est une grâce imméritée donnée de toute éternité. 2 Timothée 1:9. Une grâce imméritée donnée de toute éternité. En fait, Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement qu'il t'a choisi. Alléluia. Et qui dit choisi, dit que tu es spécial. Tu es précieux. Parce que moi, quand je choisis quelque chose, c'est spécial, c'est précieux. Et tu es aussi unique. Quand on parle d'être unique, ça signifie que tu es le seul exemplaire. Ça signifie que tu es le prototype. Ou on pourrait dire, tu es sans égal, sans pareil. Il n'y a personne qui n'est comme toi. Tu es donc le seul exemplaire de toi-même. Tu n'es pas une fabrication en série. Dieu ne fait pas de fabrication en série. Il t'a choisi de manière personnelle. Ça, c'est incroyable. Tu n'es ni une copie, ni identique à quelqu'un, ni équivalent. Personne ne peut jouer ton rôle mieux que toi-même. Dieu est l'architecte de ton sourire et de la mélodie de ta voix. Il t'a créé avec la plus grande affection, n'ayant que toi à l'esprit. Quand on parle que Dieu est un Dieu personnel, c'est vraiment ça. Tu fais tout son bonheur. Ce matin, Dieu te dit, tu fais tout mon bonheur. L'amour merveilleux que notre Père nous porte est infini. Il est personnel et il est unique. D'ailleurs, Jérémie 31,3 dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi j'ai prolongé envers toi ma bonté. » Ce matin, on a chanté qu'il était bon, qu'il était infiniment bon, que son amour dura toujours. Alors, on va s'arrêter quelques secondes où je vous propose qu'on écoute le Saint-Esprit. Est-ce que je crois vraiment que je suis choisi? Et on va s'arrêter 30 secondes pour écouter Dieu, ce Dieu personnel pour toi. Alors, je te pose peut-être une question. Quelles sont les voix que tu as entendues quand tu as écouté l'Esprit? Ou quand tu t'es arrêté puis tu as intégré cette réalité? Quelles sont les voix que tu as entendues? Est-ce que c'était les voix de l'Esprit? Ou est-ce que tu as entendu « Oui, mais bon, on est tous choisis, de toute façon, on est tous. Oui, mais bon. » Il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Et c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qu'on entend? Et peut-être de le noter. Parce que peut-être déjà maintenant, il y a des mensonges qui sont là depuis des années en vous. Et tous ces mensonges qui parlent d'autre chose que le fait que tu es choisi, que tu es précieux, que tu es unique, et que Dieu t'aime d'une manière personnelle, tout ce qui dit autre chose que ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Qui déjà dans votre identité est en train de casser quelque chose. Et le jour où on sera confronté à certaines situations, et ça s'en vient, ça sera vraiment important pour tenir bon de savoir qu'on a été choisi d'une manière particulière. Dieu t'aime tellement qu'il t'a choisi. Dieu t'aime tellement, on peut mettre le prochain, qu'il vous a établi. Alors en grec, le mot établi, ça veut dire mettre en place, nommer, désigner. Dans la Bible, on voit que Jérémie a été désigné comme prophète pour les peuples. Abraham, on lui a changé son nom de Abraham à Abraham, qui a été établi comme père de plusieurs nations. Sarah, Sarahi, Sarahi, Sarah, a été nommée comme mère et que d'elle sortiraient des rois pour les peuples. Jésus, lors de son baptême, a été désigné par Dieu, nommé comme fils bien-aimé. Paul a été nommé, oint, comme prédicateur, apôtre, docteur des nations. Alors ce matin, comment Dieu te nomme? Comment Dieu te désigne? Pas ce que les gens t'ont dit, ni ce que peut-être un prophète, même si on croit que Dieu parle au travers des prophètes, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Comment Dieu te nomme. Est-ce que tu connais les dons merveilleux qui sont en toi? Est-ce qu'il te nomme père et mère pour une nation? Est-ce qu'il te nomme adorateur? Est-ce qu'il te nomme phare, refuge pour ceux qui sont perdus? Est-ce que ton nom, c'est intercesseur pour le monde et les croyants? Est-ce que ton nom, c'est libéralité pour déverser la libéralité pour le corps de Christ? Est-ce que ton nom, c'est réparateur de brèches, réconciliateur? Est-ce que ton nom, c'est berger pour les couples, pour les familles? Quel est ton nom? Et je vous propose qu'on puisse écouter le Saint-Esprit. Quelques secondes. Quel est ton nom? Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta révélation. Et si ce matin tu ne sais pas encore ou pas précisément quel est ton nom, bien je t'encourage à prendre du temps avec Dieu. On dira à sa table pour comprendre comment ce qu'il t'a nommé, désigné, mis en place. Notre identité est intimement liée à notre destinée. Ça veut dire que le nom que Dieu te donne, si on peut dire ça comme ça, la manière dont il te désigne, va automatiquement découler sur ta destinée. Par exemple, Jérémie 1:10, Dieu lui a dit « Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu... » Donc si Dieu t'établit comme intercesseur, c'est pour que tu, par exemple. Donc ton nom, la manière dont Dieu crée cette identité en toi va automatiquement désigner ce qu'il t'appelle à faire. Donc c'est important de savoir qui tu es en Jésus. C'est important de l'écouter. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il consacrait par exemple un prophète ou etc., il leur versait de l'huile sur la tête. Et c'était comme un signe ou un sceau de Dieu qui disait « Tu es qualifié, tu reçois toute mon autorité, tu es approuvé, tu es équipé. » Et c'est ça qui est beau, c'est que quand Dieu te nomme, eh bien il te donne son autorité, il te donne les qualités nécessaires, il t'approuve. Et il t'équipe. Dieu ne nous envoie jamais quelque part sans équipement, sans être approuvé. Et quelquefois, on cherche d'être approuvé par les hommes. Mais premièrement, c'est Dieu qui nous approuve. Et ça, on a besoin de l'entendre. On a besoin d'avoir une relation avec lui. On a besoin de recevoir de Dieu qui on est. Dieu nous aime tellement qu'il nous a établis. Dieu nous aime tellement qu'il nous a établis afin que vous alliez ou que nous allions. En fait, Dieu est un Dieu de mouvement. Il veut qu'on se mette en mouvement. Mais alors, aller où? Hein, parce que alors ça, c'est peut-être un peu abstrait. Si on regarde de nouveau Jérémie 1:10, il dit « Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, abattes, etc. » Lorsque Dieu nous établit, c'est toujours rattaché à un territoire. Et ce territoire, ça peut être un lieu géographique, comme par exemple une ville. Dieu m'a établi à Morges, Dieu m'a établi à Lavigny ou à Cossonay. Ça peut être une région, c'est la côte, la Suisse romande. Ça peut être un pays, j'ai à cœur le Sénégal, ou j'ai à cœur la Suisse, ou la francophonie. Mais ça peut aussi être un type de personne, comme par exemple un peuple en particulier, une tranche de la population en particulier, comme par exemple, moi, mon cœur, c'est pour les ados. Moi, mon cœur, c'est pour les femmes. Ou c'est pour les entrepreneurs. Ou les étudiants. Donc Dieu, il nous demande d'aller, il nous équipe, il nous choisit, il nous établit pour aller sur un terrain. Et ce terrain, c'est soit un lieu géographique ou soit un type de personne. C'est un endroit où Dieu nous donne une autorité naturelle et surnaturelle. On ne sait pas pourquoi, quand on est dans cet endroit, il y a l'autorité de Dieu qui vient sur nos vies. C'est un endroit où on est soutenu, où on est apprécié, où on est désiré et nécessaire. Comme nulle part ailleurs. C'est un endroit où vous serez fécond, où vous aurez une sagesse nécessaire pour régler les conflits, les problèmes qui vont surgir. C'est un endroit où on a un sentiment de destinée et de fertilité. Yes. Dieu t'aime tellement qu'il te donne un endroit merveilleux. Chacun d'entre vous, Dieu vous donne un endroit merveilleux. Alors ce matin, quel est cet endroit merveilleux? Quel est ce jardin d'Éden? Si on retourne à la Genèse, Dieu a donné à Adam et Ève un jardin merveilleux. Et dans ce jardin merveilleux, il les a établis, il les a choisis et il leur a donné une mission. Et c'était dans cet endroit merveilleux. Et chacun d'entre vous, vous avez un endroit merveilleux. Quel est l'endroit que Dieu vous donne? Est-ce qu'on peut écouter le Saint-Esprit? Révèle-nous, Seigneur. J'appelle cet esprit de révélation, de clarté. Merci que tu parles à nos cœurs, parce que tu es ce Dieu qui parle. Alléluia. Peut-être que ce matin, on peut aussi se poser la question, est-ce que, à certains endroits, je suis sortie du terrain que Dieu m'a donné? Parce que je peux, par moi-même, être dans des endroits où ce n'est pas des endroits où Dieu m'a donné. Ça veut dire que je suis en dehors de ce que Dieu veut pour ma vie. Et pose-toi la question si dans certains endroits, il y a ce sentiment de fertilité, de destinée, d'autorité spirituelle, si tu ne l'as pas, est-ce que peut-être ce n'est pas un endroit que Dieu veut que tu sois pour maintenant? Pour maintenant. Pour que tu ailles, aller où, on a vu, dans ce lieu, cet endroit merveilleux, et aller quand? Parce que Dieu nous choisit, Dieu nous établit, il nous donne un cœur pour un endroit merveilleux, mais il y a aussi un quand. Il y a aussi un quand. Et la Bible dit, il y a un temps pour toute œuvre, dans l'Ecclésiaste. À toute chose sa saison, et à toute affaire sous les cieux son temps. Et je crois qu'on est fait de saisons. Alors pour ceux qui étaient à la journée femmes, ben j'ai parlé de ça. Mais il y a des saisons pour nos vies. Comme on le voit dans la nature, eh bien il y a des saisons dans la nature et aussi dans le spirituel. Il y a des saisons où on est appelé à être en réflexion, à planifier, à évaluer. Puis il y a des temps de révélation, d'action, on pourrait dire c'est l'été. Puis après il y a des saisons de récolte, d'épanouissement. On peut dire c'est l'automne. Et il y a aussi des saisons de repos, de dépouillement. C'est plutôt l'hiver. Et c'est vrai qu'on dit qu'on est un arbre planté près d'un courant d'eau, mais c'est écrit qu'il donne du fruit en sa saison. Et je pense qu'on n'est pas appelé à porter du fruit tout le temps. On est appelé à accepter qu'il y a des saisons d'une manière naturelle, mais aussi d'une manière spirituelle. Acte 17, 26 nous dit que Dieu a déterminé à l'avance les temps qui nous sont assignés. Donc si on veut répondre favorablement à son appel, il nous faut apprendre à discerner les temps et les saisons que Dieu a déjà ordonnés pour nos vies et chercher à aligner correctement nos actions sur son calendrier. Amen. Et ça, c'est pas évident. On doit écouter. En fait, tout ça, on doit écouter. Seigneur, quelle est la saison dans laquelle je suis maintenant? Est-ce que je suis plutôt dans une saison où j'ai besoin de guérison intérieure? Est-ce que je suis plutôt dans une saison où Dieu me prépare, me forme, m'équipe? Est-ce que je suis plutôt dans une saison où je dois suivre, servir, encourager le projet de quelqu'un d'autre? Ou alors est-ce que c'est le temps pour moi de me lever et de partir au combat? On ne peut pas partir au combat toute l'année. Est-ce que c'est une saison pour moi pour consolider mon couple ou soutenir un enfant ou un proche qui souffre? L'appel de Dieu est progressif et il passe par des saisons. Et je voulais partager quand j'avais deux petits-enfants, Maxime et Cory, qui avaient 1 an et demi et 3 ans et demi. On est partis au Canada, c'était une saison pour nous de partir au Canada. Et on a eu le privilège d'aller faire une école biblique. Et puis pour moi, il y avait un tiraillement, parce que j'avais envie de faire cette école biblique, mais en même temps, ben, j'avais mes deux petits loulous. On avait un déménagement, c'était un déracinement. Et dans mon cœur, il y avait un combat, parce que j'avais tellement envie d'apprendre des choses sur Dieu. Puis en même temps, ben, j'avais toute cette réalité où il a fallu déménager, prendre un appartement, on n'avait plus rien du tout, il y avait aussi l'aspect financier. Et puis là, le Seigneur m'a dit, bah, c'est pas ta saison de te former. Prends du temps pour tes enfants. Et il fallait vraiment que je puisse libérer Bob pour être derrière, que je prenne soin de mes petits loulous, alors qu'on était à Montréal, j'aurais pu très bien les mettre à la garderie. Mais le Seigneur m'a dit, bah, ta saison maintenant, il y aura une autre saison pour toi. Et ben, il y a 2-3 ans en arrière, Dieu m'a dit, maintenant c'est ta saison. Et je pense qu'on doit vraiment discerner. Et je crois qu'on doit embrasser la saison dans laquelle on est maintenant. Et se dire, ben, ok Seigneur, tu m'as parlé, voilà ce que je vais devoir faire. Ben, il y aura une saison où je pourrai le faire. Et ça enlève toute frustration. Ça apporte de la paix quand on sait dans quelle saison on se trouve. Ça aide aussi à mettre les priorités. Parce que quand on sait dans quelle saison on est, on peut dire, ah, ça on aimerait, mais ce n'est pas la priorité. Ok, Seigneur, il y aura une autre saison pour moi. On ne perdra jamais avec Dieu. Il sait toutes choses. Et ce que j'avais à cœur de vous dire aussi ce matin, c'est que je suis convaincue qu'aujourd'hui, chacun d'entre vous, vous avez été choisi pour un temps comme celui-là. Et comme je disais au début, que j'ai pris la parole, quand on entend la mentalité aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des choses qui tournent plus très rond. Quand on parle d'économie, d'énergie, des genres, réchauffement climatique, quand on voit que toutes les religions de l'Orient s'en viennent en Occident, eh bien, on se sent en tout cas un petit peu perdu. Puis on se dit, mais Seigneur, comment est-ce que je vais faire? En tout cas, moi, je travaille avec des jeunes à New Grace, et puis ils sont dans une toute autre réalité, et je réalise que je suis déjà déconnectée avec ce que le monde vit aujourd'hui, avec ce que la jeune génération vit aujourd'hui. Mais ce que j'ai à cœur de vous dire, c'est qu'on a été choisis, on a été établis, et qu'on est au bon moment et au bon endroit ici. Et que Dieu nous qualifie pour ça. Alors prions. Intercédons, et d'ailleurs on a bientôt une semaine de jeûne, mais tous les jours, prions pour que Dieu nous donne la stratégie pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Et si on est dans cette saison, c'est qu'on est fait et qualifié pour ça. Je pense que c'est bon, cherchons les stratégies de Dieu. Alors dans la suite de notre verset, On peut mettre « Il nous a choisis, il nous a établis pour que nous allions au bon endroit, au bon moment et que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. » Ça, en fait, c'est la bénédiction, parce que Dieu est tellement bon qu'il veut nous donner une bénédiction. Et il y en a deux de bénédictions, ça c'est la première. Dieu nous aime tellement qu'il veut nous donner du fruit et du fruit qui demeure. Du fruit qui demeure, ça veut dire qu'il subsiste, qu'il reste, qu'il est prolongé, qu'il s'attache. Pas un truc qui disparaît. C'est qu'il y a quelque chose, une certaine continuité. Alors le fruit, en grec, ça veut dire karpos, on s'en fout, bref. Mais ce mot karpos, on le retrouve que dans les fruits de l'esprit. Alors ça veut dire qu'en chemin, alors que je marche, alors que je vais dans le terrain que Dieu m'a donné, alors que je suis en route, que je suis choisie, établie, Dieu me donne du karpos. Et ce karpos, c'est l'amour nécessaire, la joie nécessaire, la paix nécessaire, la patience nécessaire. Il me donne aussi la bonté nécessaire, la bienveillance, ce que l'on en a besoin, et la foi. Ah oui, j'ai aussi besoin de la foi en chemin, ainsi que la douceur et la maîtrise de soi. Tous ces fruits, j'en ai tellement besoin alors que je vais. Mais il y a un autre karpos, parce que quand on va en grec puis qu'on cherche tous les karpos, il y a un autre karpos qui sort, qui dit, qui a une signification, qui dit une récolte abondante, une descendance, une progéniture. Donc Dieu veut nous bénir en nous donnant de porter une récolte, en nous donnant de porter une descendance qui demeure. Quel beau programme! On parle souvent du discipulat, d'avoir des enfants, des petits-enfants, etc. On est exactement là-dedans, se multiplier, se reproduire. Et ça, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. C'est pour chacun d'entre vous alors que vous alliez. Alors si je comprends bien jusqu'à présent, Dieu m'a choisi. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Dieu m'établit. Ce n'est pas moi qui m'établis. C'est Dieu qui m'établit. Dieu me donne un endroit merveilleux dans lequel il me revêt de son autorité, dans lequel il me donne sa sagesse, sa compétence. C'est Dieu. Dieu me donne du fruit en abondance, une récolte qui demeure. Est-ce que Dieu n'est pas bon? C'est tout ça pour nous. Tout est question de Dieu. Tout est de son initiative. Est-ce qu'on peut juste lui dire merci? Quel Dieu généreux! Il nous aime tellement. On a une seule responsabilité dans tout ça. Jean 12, 24, 26. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre, nous sommes le grain de blé jeté dans une terre, dans un endroit merveilleux, ne meurt pas, il reste un grain unique. Ça veut dire, porte pas de fruit. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Alors on doit mourir à quoi? Ça c'est un petit peu moins drôle. Verset 25, « Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. » Alors en fait, ça veut dire « mourir à moi ». Ça veut dire que mon moi, comme roi sur un trône, eh bien il descend et on met Dieu sur le trône. C'est mourir à la pensée que je peux faire sans Dieu. Pas plus compliqué. Que je peux être allé, que je peux être établi, que je peux faire plein de choses, que je peux faire plein de choses pour Dieu. C'est de mourir à la pensée que je peux faire sans Dieu. Au verset 5, « Je suis le cep. Vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans lui, on ne peut rien faire. De nouveau, c'est toute une question de lui. Ma responsabilité, c'est de demeurer, de subsister, de rester en lui dans son amour. Il est le cep. Être complètement dépendant de lui. Lui faire totalement confiance pour ma vie, pour mes besoins, pour mes ressources, que ce soit des ressources financières, d'énergie. Est-ce que je vais avoir la force de me lever demain matin? Est-ce que je vais avoir la force de réussir? Mon intellectuel, est-ce que je crois que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? Mes compétences, mes relations, est-ce que je vais être capable de plaire à mon conjoint? Est-ce que je vais être acceptée dans les relations? Tout ça, c'est de lui faire totalement confiance. Et ça, c'est un programme de toute une vie. C'est tellement dur de faire confiance. Parce que très vite, on reprend les rênes et on gère. En fait, c'est d'avoir la foi. Avoir la foi, c'est de lui faire confiance et c'est ce qui fait plaisir à Dieu. C'est notre seule responsabilité. Tout le reste, c'est Dieu qui nous le donne. C'est la clé pour une vie abondante, c'est une véritable relation avec Dieu. Et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, où on a pris quelques secondes pour écouter Dieu, c'est seulement en allant écouter Dieu qu'on va pouvoir entrer là-dedans. Ce n'est pas en écoutant des prêches, c'est en ayant vous-même cette relation avec Dieu et qu'il puisse établir ces choses en vous. Puiser notre vie en Dieu, être dépendant de lui seul. Alors, suis-je vraiment dépendant de toi, Seigneur? Dans quel domaine suis-je encore au contrôle? Et on va prendre quelques secondes pour écouter Dieu. Si le Saint-Esprit vous dit des choses, notez-le. Où est-ce que je suis encore en contrôle? Est-ce que je suis vraiment dépendant de Dieu? Prends quelques secondes pour l'écouter. Seigneur, on te demande pardon. Pour toutes les fois où on a de la peine à demeurer en toi. À demeurer dans ton amour. Et quand je commence à contrôler, c'est parce que j'ai peur et je ne suis plus dans ton amour. Alors Seigneur, ce matin, on veut encore une fois te dire qu'on veut placer notre confiance en toi. On veut demeurer attaché à ce cep pour pouvoir porter du fruit en abondance. On veut lâcher prise sur le contrôle. Apporte-nous ta révélation. La semaine qui s'en vient, partout où on tient encore des choses et on ne te fait pas confiance. Parce qu'on veut te faire plaisir, Seigneur. La deuxième bénédiction qui nous est promise, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ça veut dire exactement la même chose que dans plusieurs passages où ces serviteurs de Dieu qui marchaient, Abraham, Josué, etc., ils marchaient, puis tout d'un coup ils disaient « Mais Seigneur !» Et Dieu il leur disait « Je suis avec toi. Fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. » C'est exactement ce que ça veut dire. « Je prendrai soin de toi tout au long de ta marche. Je vais pourvoir à tous tes besoins. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. » Ça, c'est cette deuxième bénédiction que Dieu nous donne. Dieu nous aime tellement qu'il veut répondre à tous nos besoins en chemin. Alléluia. Et je vais finir avec ça, vous rappeler de l'histoire de Moïse qui devait aller libérer son peuple. Libérer le peuple, oui, exactement, les Hébreux. Et puis Moïse, il reçoit vraiment ce charisme où Dieu lui dit, maintenant, voilà ta mission, voilà ce que tu dois faire. Et puis voilà que Moïse, en plein doute, il dit, s'il me demande, mais quel est son nom, en qui tu viens, que leur répondrai-je? Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Dieu lui dit, je suis celui qui suis. C'était le terme Yahweh. En fait, non, c'est pas Yahweh parce qu'on peut pas le prononcer, c'est YHWH. Et c'est la première fois que Dieu nomme son nom dans la Bible. Et il dit, voilà qui je suis. Je suis celui qui suis. Et on pourrait le traduire, je serai celui qui sera. C'est au présent et au futur. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? On a essayé de sortir une phrase, alors elle n'est pas de moi. Ça veut dire, je serai tout ce dont tu as besoin au moment où tu en auras besoin. Ça veut dire, vous êtes dans le manque aujourd'hui, il est l'Éternel qui pourvoit. Quand on parle de Éternel, c'est ce fameux Yahweh. Vous êtes dans la maladie aujourd'hui, il est l'Éternel qui te guérit. Aujourd'hui, vous avez péché. Il est l'Éternel qui te purifie. Aujourd'hui, tu ne sais pas où aller. Il est l'Éternel, votre berger. Aujourd'hui, tu as des angoisses. Il est l'Éternel, votre paix. Il est le grand je suis. C'est une source inépuisable. Quel que soit ton besoin, alors que tu te mets en action, alors que tu es en mouvement, le nom puissant de Dieu y répond précisément. Nous avons le nom au-dessus de tous les noms. Nous avons le Dieu éternel, je suis, qui est tout ce dont tu auras besoin au moment où tu en auras besoin. Ça veut dire que tu te mets en route. Même si tu connais que le 5% de ce que tu dois faire, de qui tu es, de où c'est que tu dois aller. Parce que Patricia nous a posé plein de questions ce matin, au secours, c'est la confusion, je ne sais plus. En tout cas, moi, il m'a fallu une année et demie pour répondre à ces questions. Donc, courage. S'il y en a que vous ne savez pas, prenez le temps, allez marcher dans la forêt, parlez avec Dieu. Mais le peu que tu sais, tu te mets en route parce que tu as ce Dieu Yahweh qui va répondre à tes besoins alors que tu es en route. Chaque chose alors que tu es en route. Et le dernier slide, Dieu t'aime tellement qu'il t'a choisi. Je l'ai un peu modifié, hein? Je l'ai mis à tu. Qu'il t'a choisi. Précieux, capable, unique. Qu'il t'a établi, il t'a nommé, il t'a mis en place, il te tient debout. L'établissement, c'est une force pour se tenir debout. Afin que tu ailles dans un endroit qui t'appartient, que juste toi, tu es fait unique pour y répondre. Dans un endroit où il n'y a pas des loups qui vont te manger, mais dans un endroit merveilleux où il t'équipe et il te donne son autorité. Il y aura des conflits, mais il te donne son autorité, celle qui vient de Dieu pour régler les conflits, pour supporter la souffrance, pour aller au travers. Et tu vas porter du fruit en abondance, et du fruit qui va demeurer pour l'éternité. Pour l'éternité. Et tout ce que tu vas demander à Dieu, en chemin, au Père, au nom de Jésus, il va te le donner. Parce que quand on demeure en lui, on va commencer à prier de la manière dont lui, il voit les choses. et il va prendre soin de toi. Il va être ce Yahweh pour tous les jours. Il va répondre à tes besoins, à tous tes besoins. Alléluia.